Dans cette septième émission, Jean Beaufré poursuit son dialogue avec la pensée de Martin Heidegger. L'œuvre de celui-ci apparaît aujourd'hui non pas comme une nouvelle conception du monde, mais comme un questionnement radical sur le destin des temps modernes, l'ère de la science et de la technique poussée à bout. Pourquoi l'homme de notre temps voit-il de plus en plus le monde comme une simple matière première? Et pourquoi la façon dont il la met totalitairement à son service prend-elle le caractère d'une véritable sommation? Pourquoi l'esprit de calcul tend-il à régner en maître sur les temps, c'est-à-dire sur l'ensemble de ce qui est? Et pourquoi les mathématiques, la projection mathématique de la nature, qui caractérise notre époque, deviennent-ils la mesure primordiale de tout rapport au monde? Sur cette voie, qui est celle des temps modernes, une dimension essentielle aurait-elle été oubliée? Serait-ce même la dimension de l'être qui aurait été oblitérée? Jean Beaufré, dans votre conférence de Lyon en 1977, vous rappeliez, non sans humour, que Heidegger a passé pour nationaliste, athée, nihiliste, détracteur de la science, contempteur de valeurs, régionaliste, pangermaniste et même existentialiste. Vous avez souligné aussi que bien des formules de Heidegger heurtent de front ce que chacun tient de nos jours pour évident. Nous lisons par exemple « Nous autres, hommes modernes, nous avons sans doute, à travers les siècles, trop agi et trop peu pensé. » Phrase aussi paradoxale, inactuelle, que celle qui mit le scandale à son comble. La science ne pense pas. Que veut dire Heidegger lorsqu'il dit, en reprenant son enseignement après la guerre, « La science ne pense pas. »
La science ne pense pas. Il faut même entendre cette proposition en l'élevant, pour ainsi dire, au carré. C'est-à-dire au sens où l'essence de l'oubli est l'oubli de l'oubli. Car quand je sais avoir oublié, je n'ai pas encore tout à fait oublié.
Et si elle ne pense pas, la science a donc oublié quelque chose. Et puisqu'elle ne pense pas, alors que fait-elle?
La science ne pense pas, elle explique. Penser et expliquer font deux. Expliquer, c'est tout réduire à un projet d'ensemble qui demeure à sa pointe, ce que Heidegger appelle parfois le projet mathématique de la nature. De ce qui est là devant moi, je ne veux rien savoir qui ne soit formulable mathématiquement. Si tout ne se réduit pas unilatéralement à un tel projet, il n'en demeure pas moins immanent à tout, étant l'idéal de l'explication scientifique, idéal selon lequel tout converge sur un seul point, connaître, c'est mesurer. La science moderne est donc, avait très bien dit Bergson, fille des mathématiques. Que cette filiation se soit compliquée jusqu'au point où l'explication n'est même plus immédiatement mathématique, comme on le voit dès la biologie, encore mieux en histoire, ou quand Marx énonce comme tendancielle, dit-il, la loi de la baisse du taux du profit, eh bien tout cela ne doit pas cependant nous abuser. Même là où le savoir scientifique n'aboutit pas à un calcul au sens mathématique du terme, ce n'en est pas moins en lui, dit Heidegger, le règne exclusif du calcul qui sévit avec d'autant plus d'âpreté qu'il n'a même plus besoin de se servir de nombres. La science n'a d'autre issue par rapport à son objet que de calculer quelque chose de lui d'une manière ou d'une autre.
Vous dites d'une manière ou d'une autre.
Oui.
Pouvez-vous donner un exemple ?
La pensée calculante, dit Heidegger, est celle dont le schéma est, il le dit en allemand dans Sein und Zeit, wenn, so, si, alors. Si je n'attaque pas le tsar, disait Napoléon, alors c'est mon blocus continental qui bat de l'aile. Et Voltaire, si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer. Disons que le calcul mathématique n'est lui-même qu'une restriction idéale de l'esprit de calcul qui porte de fond en comble l'entreprise scientifique.
Il y aurait donc une alternative rigoureuse entre penser et calculer. Ce serait ou bien l'un ou bien l'autre.
Pas tout à fait. Si, en effet, il n'est rien dans les temps qui, pour la science, ne soit déterminable au fil d'un calcul dont le calcul mathématique est une forme idéale, il n'en résulte nullement que le projet d'ainsi tout calculer soit lui-même le résultat du calcul. Ce n'est pas comme résultat d'un calcul, c'est par une décision philosophique qu'au XVIIe siècle, Galilée, puis Descartes, pose que dans la nature, tout est calculable mathématiquement. Mais alors, il pense, bien sûr que oui, seulement c'est en philosophe qu'il pense. Et ce n'est qu'à partir de là qu'il se livre à des calculs, d'où résulte, par exemple, pour Galilée, dans le cas de la chute des corps, la proportionnalité de la vitesse au temps de chute, le calcul de Descartes, au contraire, se refusant, et non pas pour de mauvaises raisons, à avoir là plus qu'un à peu près. À propos de quoi, selon Descartes, Galilée ne fait qu'extrapoler.
Par conséquent, Galilée et Descartes pensent et ne se bornent pas seulement à calculer.
Galilée et Descartes pensent, mais non pas la science qu'ils ont mise en œuvre. Celle-ci calcule seulement. Ce n'est que 2 siècles plus tard que la pensée de Galilée et de Descartes, se laissant, pour ainsi dire, éclipser par l'ampleur des résultats qu'elle autorise, la science en vient à s'imaginer penser là où elle ne fait que calculer. Cette confusion, qui est le trait le plus propre de notre temps, porte le nom de positivisme. Tous les hommes de science aujourd'hui sont des positivistes et raisonnent comme tels. Ils prennent tous pour philosophie l'idolâtrie du calcul scientifique. Là où Descartes et Galilée sont en grand besoin de philosophie, les modernes disent « Nous n'avons que faire de la philosophie, n'avons-nous pas envoyé des cosmonautes dans la Lune ? Nous sommes à nous-mêmes et à nous seuls toute la philosophie dont nous avons besoin. » Jamais l'oubli de l'essentiel ne fut d'une telle densité. Dès lors, la science fonctionne toute seule et n'a plus besoin que d'elle seule pour fonctionner, tandis qu'à partir de là se créent des sociétés qui, je cite, « tissées par la science, vivant de ses produits, en sont devenues dépendantes comme un intoxiqué de sa drogue ». Cette phrase se trouve dans la conclusion du livre de M. Monod, paru en 1970, sous le titre « Le hasard et la nécessité ».
Pour Heidegger, la science ressemble plus, selon le mot de Monod, à une intoxication qu'à un exercice de la pensée.
Tout le problème est de savoir si l'on peut se désintoxiquer de la science sans annuler pour autant la pensée. Faudrait-il donc apprendre à remonter de ce haut degré d'intoxication par la science et par la virulence de son calcul jusqu'à la pensée, avions-nous dit, de Descartes et de Galilée. Car même l'intoxication moderne a son origine dans une pensée. Certes, c'est bien jusque-là qu'il faut remonter. Mais est-ce que cette remontée, ce retour à mon, comme dit René Char dans un de ses titres, suffit à nous rendre vraiment pensants? Ou bien, faut-il admettre qu'avec même la découverte du projet philosophique qui fut celui des initiateurs des temps modernes, la question ne fasse que rebondir? Car elle devient, pourquoi au juste ce projet? La réponse aujourd'hui va de soi, et elle est aussi naïve que le positivisme lui-même que nous avions évoqué tout à l'heure. Le projet scientifique s'impose parce qu'il est plus vrai, dit le positivisme, que toute pensée antérieure. Plus vrai, c'est à voir. Il s'agit en réalité d'un extraordinaire virage. Mais la lecture mathématique de l'étang, telle qu'elle consiste, dit Kant, à épeler en lui des phénomènes, est-elle plus vraie que sa lecture grecque, dont la physique d'Aristote nous donne un extraordinaire modèle? Modèle périmé, dira M. Coiré, et il ajoute même irrémédiablement périmé. C'est à voir. Heidegger écrit tout au contraire. Il ne viendrait à l'idée de personne de prétendre que la poésie dramatique de Shakespeare constitue un progrès sur Eschyle. Mais il est encore plus insensé de dire la saisie moderne de l'étang, dans le cadre, avions-nous précisé, d'un projet mathématique de la nature, plus vrai que ce qu'en ont pensé les Grecs. Si donc nous voulons comprendre quelque chose à l'essence de la science moderne, conclut Heidegger, il faut avant tout nous délivrer du lieu commun qui consiste à ne différencier la science moderne du savoir antique que par une simple différence de degré dans l'optique d'un progrès. La science moderne n'est pas plus vraie que le savoir antique, elle est autrement vraie, au sens de la vérité ayant muté en certitude. Dans cette mutation, c'est toute l'histoire occidentale qui se reflète. La décision philosophique de Descartes et de Galilée, qui ouvre les temps modernes, n'est donc pas entièrement transparente à elle-même. Il faut donc pousser encore plus haut le retour à mon.
Vous parlez de la science moderne et du savoir grec. Pascal, ne tourne-t-il pas cependant en dérision la définition qu'Aristote donne du mouvement, par exemple?
Cette définition, rappelons-la, telle que Pascal la donne dans le petit traité qu'il écrit sur l'esprit géométrique, le mouvement n'est ni tout simplement un acte, ni une simple puissance, mais l'acte de l'étant en puissance en tant qu'il est en puissance. Et Pascal ajoute que ceux qui parlent ainsi embrouillent toute chose et, perdant tout ordre et toute lumière, ils se perdent eux-mêmes et s'égarent dans des embarras inexplicables. C'est cependant quelque chose d'assez simple que dit Aristote à travers le jargon dont l'affuble Pascal, en prétendant par là purement et simplement le traduire. En réalité, entre deux états d'une même chose qui fait que le premier devient le second, Aristote cherche à saisir l'entre-deux, pour ainsi dire, le se faisant du fer lui-même. Entre le repos du « et » et celui du « n'est pas », le mouvement porte chacun des deux au sein de l'autre, au sens où un vase, par exemple, un vase tel qu'il sorte de l'atelier du potier, s'il n'est pas encore, n'en commence cependant pas moins à être dès le choix de l'argile, tandis que l'argile, dès ce moment, n'est plus seulement ce qu'elle était, à savoir de l'argile, sans pour autant être déjà un vase. Voilà ce qu'essaie de dire Aristote, c'est-à-dire de saisir le moment de la transformation entre deux tout faits, de telle sorte qu'on peut dire que cette phrase de Rivarol, qui est écrite bien plus tard, lui répond au plus exact. Quand Rivarol écrit « Le mouvement entre deux repos et l'image du présent entre le passé et l'avenir, le tisserand qui fait sa toile fait toujours ce qui n'est pas. » Cette phrase avait frappé l'attention de Ernst Jünger, qui a traduit précisément en allemand des textes de Rivarol, et Jünger, qui ne comprenait pas très bien ce que Rivarol voulait dire, s'est adressé à Heidegger, qui a discerné l'écho aristotélicien de la phrase même de Rivarol en faisant un commentaire de ce que Pascal prétend donner comme la traduction de la définition du mouvement, ce qui est, aucun préjudice fut-il porté à la grandeur de Pascal, se moquer du monde, comme il aime dire lui-même.
La définition d'Aristote se fait donc dans une dimension très différente de celle de la science moderne.
Et c'est précisément cette dimension qu'il importe de redécouvrir, et c'est pourquoi je disais que remonter jusqu'à Descartes, Galilée et Pascal n'est pas encore suffisant. Si la science ne pense pas, la pensée de ceux qui furent les initiateurs de notre monde comme monde de la science n'est encore pensante qu'à demi. Être pensant, c'est penser au-delà de Descartes, ou plutôt en amont de lui, et c'est dire à quel point la science ne pense pas si, à son insu, elle n'instrumente qu'à partir de Descartes et sans même le voir.
À la fin d'un texte sur Nietzsche, Heidegger écrit « La pensée ne commence que lorsque nous avons éprouvé que la raison, tant magnifiée depuis des siècles, est l'adversaire le plus opiniâtre de la pensée. » Comment comprendre cette phrase ?
Heidegger dit bien « adversaire » et non pas « ennemi », comme d'abord on avait traduit bien à tort. C'est dire que la raison, et par là Heidegger pense essentiellement au discours de la méthode, c'est dire que la raison, ou plutôt c'est dire que de la raison à la pensée, le passage est possible si le retour amont est suffisant. Prendre ce texte, comme on le fait généralement, pour une condamnation sans appel de toute raison en faveur d'un irrationalisme, c'est faire de Heidegger quelqu'un qu'il n'a jamais été. Le travail d'un tel retour, le retour amont, est de se désintoxiquer du calcul jusqu'à l'origine de celui-ci dans le domaine de la pensée, travail à quoi ne suffit pas de remonter, avec Husserl, jusqu'à Descartes seulement.
Mais les scientifiques qui veulent réfléchir sur la science, comment peuvent-ils alors s'y prendre ? Dans une note, Nietzsche écrivait en français « N'est-ce pas là ma tâche d'éniaiser les savants ?»
Et cela fait deux questions. D'abord, la question que pose la phrase de Nietzsche, qu'entend-il par déniaiser les savants ? Et ensuite, les hommes de science, comment peuvent-ils bien s'y prendre si vraiment Leur projet est de remonter de la science qui calcule jusqu'à la pensée. Pour ce qui est de la phrase de Nietzsche, c'est d'autres choses qu'il pensait. Il écrit dans un autre texte qui est à peu près de la même époque que celui que vous venez de citer. Il y a chez les hommes de science une candeur qui confine à la stupidité. Ils ne devinent pas à quel point leur métier est dangereux. Ils croient du fond du cœur que leur véritable affaire, c'est l'amour du vrai et le bien, le beau et le vrai. Je dis que leur métier est dangereux par rapport non à ses effets dissolvants, mais au poids énorme de responsabilité que l'on sent peser sur soi dès que l'on s'aperçoit que toutes les valeurs, et parmi lesquelles ils placent le vrai, sur lesquelles vivent les hommes, finissent à la longue par ruiner l'homme. C'est cela que Nietzsche entend par « déniaiser les savants ». Et je ne crois pas que les savants aient à être déniaisés au sens que Nietzsche donnait à ce terme, c'est-à-dire que alors le déniaisement ferait d'eux des élateurs de l'interprétation nietzschéenne de l'être comme volonté de puissance. Heidegger, d'autre part, propose autre chose. Il ne s'agit pas de passer de la métaphysique pré-nietzschéenne à la métaphysique nietzschéenne, mais de remonter depuis la science jusqu'à la pensée. Et alors, la difficulté ici est, je dirais presque, de donner un conseil aux hommes de science. Que pourraient-ils faire ? Je crois qu'ils ne pourraient faire qu'une chose, c'est de se préoccuper de la question « qu'est-ce que la philosophie ?» au lieu de convoquer du matin au soir la philosophie à se justifier devant les propositions qu'ils énoncent.
Paul Valéry, dans « Regard sur le monde actuel », écrivait « La philosophie n'est point du tout la science et doit peut-être se dégager de toute liaison inconditionnelle avec la science. Être anti la scientia, servant de la science, ne vaut pas mieux pour elle que d'être anti la théologie, au service de la théologie. »
À ce propos de Valéry, on peut dire que Heidegger adhérerait à peu près sans réserve. À ceci près, peut-être que du côté de Heidegger, il y a une nuance et c'est celle que je soulignerai. Philosophie et science, selon lui, font deux, mais comme font deux la source d'un fleuve et son embouchure. Car c'est de la philosophie que provient la science, si du moins on remonte jusqu'à la source grecque. Un des meilleurs paradoxes de Heidegger est d'avoir dit, au cours de la conférence de Cerisy, de 1955, de science. Il n'y aurait jamais eu si la philosophie ne les avait précédés en leur ouvrant la voie. Aujourd'hui, les sciences se prétendent au contraire sorties de la philosophie, au sens où quelqu'un est sorti d'une épreuve qu'il aurait victorieusement surmontée. Elles se suffisent désormais à elle-même. Mais elle repose en réalité dans la philosophie. Déniaiser les savants, selon le mot de Nietzsche, serait leur demander d'être moins oublieux d'eux-mêmes et de comprendre que Heidegger, ce n'est pas contre la science qu'il parle, mais bien pour elle, c'est-à-dire pour plus de lumière quant à ce qui lui est radical. Ce qui procurerait à l'homme moderne plus de liberté peut-être à l'égard de la science elle-même dont il est positivement, nous l'avons dit, intoxiqué. Mais cela, ce n'est pas de la science qu'il peut le savoir. C'est d'une lecture à rebours de toute l'histoire de la philosophie où l'apparition des sciences dans leur figure moderne est un épisode décisif, mais seulement un épisode. Et sur ce point, je crains qu'aux hommes de science, cette désinvolture soit difficile, bien qu'elle reste en tout temps possible. Personnellement, je n'ai pas encore trouvé parmi eux l'oiseau rare.
Réfléchir sur la science, jusqu'à la mettre en question, ou l'abandonner à son propre mouvement, quel est l'enjeu ?
Il est bien entendu que cette mise en question de la science n'est pas une éviction de la science, et que réfléchir sur la science doit être pris au sens du retour amont que propose Heidegger, et qui est de remonter de ce qui est embouchure du fleuve à sa source encore secrète. C'est cela le sens du Zurück zu den Griechen. Retournons jusqu'aux Grecs, non pas, bien sûr, pour philosopher à nouveau en mode grec, mais pour s'interroger plus diamétralement encore sur ce qui est la source de la source grecque elle-même. Cette recherche de la source d'une source, c'est toute la pensée de Heidegger.
Et si cette remontée à la source, jusqu'à la source, ne se fait pas?
Alors, nous serons entraînés par le flot, jusqu'où il n'est pas possible de la dire, au sens où Goethe écrit du fleuve, quoique se mire en lui d'un niveau à tant d'autres, rien ne peut arrêter sa course vers l'aval.